retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
En fait, j'ai eu une phase où j'essayais de doser, où je me disais, voilà, tu vas finir ton show et tu vas prendre un bon verre de vin. T'es prêt à ça? J'ai même une période où c'était ma carotte, mais il n'était pas bon. Pas le vin, mais l'acte, le moment, il n'était pas cool, il n'était pas serein. J'attendais tellement, je jouais, je faisais mes trucs, j'attendais tellement ce verre de vin.
Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien.
J'aimerais ouvrir ce défi de janvier, plus communément appelé le Dry January, par une phrase que les personnes désireuses de contrôler leur consommation d'alcool ou d'arrêter de boire tout simplement ont toutes un jour entendue. Mais toi, tu buvais pas beaucoup. T'es pas alcoolique. Dans nos imaginaires, il y aurait donc des typologies d'addicts, des profils bien définis. Pourtant, il y a autant de raisons d'arrêter de boire que de profils de buveurs. Peut-être même qu'en réalité, les addictions se logent là où on ne les attend pas, dans une irrépressible envie d'ailleurs. Dans une sournoise tristesse, dans l'impatience chronique ou dans cette quête effrénée d'attention et de reconnaissance. Notre invité sait de quoi il parle. Il y a 3 ans et demi, le 21 août 2021, il a fait un choix radical, arrêter l'alcool. Non pour devenir un ascète, mais pour retrouver quelque chose de fondamental qu'il avait perdu, la joie. Pas celle qui éclabousse artificiellement les soirées trop arrosées, mais celle plus rare qui nous fait vibrer de l'intérieur, une joie authentique qu'on ne trouve pas au fond d'un verre mais de soi-même. Dans son dernier spectacle que j'ai eu la chance de découvrir, pas de chichi, pas de chouchou, il n'a pas décidé de nous éclater avec des jeux scénographiques grandiloquents, mais c'est la simplicité et la sincérité qui prennent toute la lumière. Il propose un stand-up épuré porté par une parole juste, se livre sans détour sur son âge, sa quête de mieux-être, de sens et son choix d'une vie libérée des addictions. L'humoriste convoque sa propre histoire entre questionnements intimes et éclats de rire universels. Plus qu'un simple show, c'est une conversation entre amis portée par un artiste qui, après avoir tout exploré, choisit la paix et la joie comme boussole. Lui-même est une célébration de l'essentiel. Et justement, la dépendance, c'est tout l'inverse, c'est l'abandon de soi au profit d'habitudes que l'on croit nécessaires et qui pourtant n'ont rien d'essentiel. Alors, comment passe-t-on de workaholic à calmolique? Comment un amoureux du vin peut-il entretenir avec ce dernier une relation platonique et olfactive? Comment apprendre à se poser quand on a passé sa vie à courir et surtout comment transformer un tempérament addictif en moteur de création et d'épanouissement? Pour notre invité, la réponse se trouve quelque part entre la spiritualité, la foi et ce qu'il appelle sa mission intime. Nous accueillons, vous l'avez compris, un humoriste, un artiste, un créateur et un infatigable chercheur de sens, Gad Elmaleh.
Waouh, je peux partir?
Ouais.
Allez, bye bye.
Bye. Tu bouges pas, hein?
Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent dans...
Je vais te laisser le papier si tu veux.
Non, j'ai pris une note là. J'ai pris une note, c'est « Je choisis la paix ». C'est super beau. De choisir la paix. C'est pas « Je veux la paix ». C'est pas moi je suis pour la paix, c'est je choisis la paix. Je trouve que même dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, on me demande de prendre position sur la guerre en Israël, sur d'autres tensions, tragédies, alors bien que je sois profondément peiné, concerné, travaillé, je me dis je choisis la paix. Je choisis la paix.
En fait, on nous demande de choisir un camp, je fais partie aussi de ces gens-là à qui on a demandé de faire. Et moi, je choisis le camp de la paix. Ouais. Donc, je ne fais rien d'autre. Malheureusement, je ne m'investis pas.
Il est plus difficile à choisir.
Tu peux le faire à chaque instant, en fait. À chaque décision de ta vie, tu te dis, il y a bouton A, bouton B. Le bouton A, c'est amour, donc paix. Le bouton B, en général, c'est brut.
Ouais, et tu peux, en effet, choisir tout le temps. C'est-à-dire que...
Choisir à nouveau.
Après un conflit, après une... tu peux dire, ah, j'avais le choix d'aller ailleurs. J'aurais pu...
Je demande à tous mes invités de me donner leur définition de l'addiction. Est-ce que tu en aurais une qui te viendrait à brûle-pourpoint, à la cantonade, comme tu dis?
L'addiction, déjà, c'est bien dire les mots sur scène, quand on joue au théâtre, avant toute chose. Le mec qui évite vraiment le sujet du podcast, le sujet totalement évité.
Mais non. Mais non, parce qu'en fait, c'est déjà dire.
L'addiction, c'est au restaurant, quand tu as fini de manger.
L'addiction, s'il vous plaît.
On peut avoir l'addiction, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Tu sais, tu l'as tellement bien défini parce que tu as parlé à un moment donné d'impatience. Tu as parlé de, je sais plus,
c'est une espèce de besoin de reconnaissance.
Besoin de reconnaissance, impatience, des trucs en anse. Et je crois que...
Ça va avec substance.
Je ne sais pas si je peux te définir moi ici, alors que toi, tu as travaillé dessus, tu as réfléchi dessus avec tellement d'invités. Je ne sais pas si je peux apporter vraiment une lumière là-dessus.
Mais c'est grâce aux invités et leur définition que moi, je l'avance. La tienne, en fait. C'est juste la tienne. C'est ta vérité, ta vision.
Je pensais le savoir... Je le sais différemment et depuis quelques secondes.
Ah, trop bien.
Ouais. C'est-à-dire que le fait de choisir la paix, choisir quelque chose, finalement... L'addiction, c'est ne pas avoir eu la force de choisir, je pense.
Alors
qu'on savait ce qu'il fallait choisir. Très peu d'addicts, s'ils étaient de bonne foi, bien que ça n'aille pas ensemble, parce que la mauvaise foi,
le mensonge,
très peu d'addicts diraient « Ah bon, c'est-à-dire que c'est mauvais quoi, c'est pas bien de boire ?» Non, c'est pas vrai. On sait tous, mais est-ce qu'on a la force d'aller où il faut aller ? On sait où il faut aller. On sait très bien où il faut aller, mais on n'a pas la force. Et tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer...
Alors attention, la force et le choix, ce n'est pas la même chose.
Peut-être, mais on a parlé de... Qu'est-ce que tu m'as dit juste avant de rentrer, j'allais dire sur scène, juste avant de rentrer là...
Bah, tu m'as dit que tu voulais rencontrer ma sœur, moi je t'ai
sœur
dit
était très jolie.
Elle est mariée.
Non, là juste avant, t'étais pas d'accord avec moi. Non, t'étais pas d'accord
la
avec
guerre.
Moi, pas sur ta sœur. T'étais pas d'accord avec moi sur... Ah oui, sur la paresse, sur la flemme, sur la paresse intellectuelle,
bravo.
Tu n'étais pas d'accord avec moi.
Bravo.
Et moi, je pense que ça existe, la paresse et la flemme.
Ça existe, mais c'est une conséquence pour moi d'autre chose.
Je comprends. En tout cas, l'addiction, c'est tellement dur.
Mais c'était bien.
Ouais, voilà. J'arrive plus à définir la sobriété que l'addiction.
Ah bah, avec plaisir.
C'est marrant parce que moi, quand je pense à sobriété, je pense absolument pas. Le gars est bourré quand il est venu ici. C'est un mytho. On l'a vu dans
il
un bar.
Il est
9h du mat et il pue l'alcool. C'est fou.
La sobriété, tu penses que c'est absolument pas...
lié aux substances. Alors là, mais aucun rapport. Jamais quand je pense à sobriété, je pense à alcool ou à tabac ou à drogue
bien
ou
sûr.
À sexe ou à casino. Sobriété pour moi, elle est avant tout pour moi. Mais vraiment, ça a pris son sens dans la sobriété... émotive. Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a touché là. Tu parlais d'un trait de caractère qui était. C'était quoi ? C'était la contradiction. Il y a un truc qui m'a intéressé et c'était décrit comme quelque chose d'addictif, quoi.
Complètement.
Soit une obsession, soit un trait de caractère.
Tout à fait, c'était.
En tout cas, ça me rappelle.
Irrépressible envie d'ailleurs, ou une impatience chronique,
oui,
ou une quête effrénée d'attention et de reconnaissance.
Ouais, impatience chronique, tout ça.
Sournoise tristesse aussi.
J'ai fait un séminaire qui s'appelle le Hoffman Process.
Mm-hmm.
Donc, je suis parti à San Francisco l'été dernier et j'ai travaillé là-bas pendant une semaine. Je dis bien travailler. Je fais une petite digression, mais c'est lié à la sobriété. Mmh. Et le process, donc l'Institut Hoffman, ils appellent ça le process, c'est Bob Hoffman qui l'a créé. C'est du développement personnel avec du travail très poussé sur notamment les blessures d'enfance. Et donc, j'ai travaillé très dur, très fort dessus. Et d'ailleurs, tu comprends tellement de choses par rapport à l'addiction, mais c'est une joie immense quand tu sors de là. Tu dis, mais... J'en parle en fait, vraiment j'en parle ici aujourd'hui parce que déjà toi t'aides énormément de gens en parlant de l'addiction.
C'est ma première question en plus, l'enfance, tu vois.
Et ben moi je dis aux gens, allez googler Hoffman, mm-hmm. H-O-F-M-A-N, mm-hmm. parce que ça existe en français, ça existe en France. Et la raison pour laquelle, Rose, je te parle de ça, c'est qu'à un moment donné, il y avait un questionnaire à remplir et il demandait aux gens, est-ce qu'ils boivent? Est-ce qu'ils prennent de la drogue? Est-ce qu'ils sont sexuellement addicts? Est-ce qu'ils sont addicts au jeu? Est-ce que nanana? Il y avait une des questions qui disait, est-ce qu'ils coupent souvent la parole aux gens? J'ai dit, waouh, c'est une trouvaille insensée. Je suis en train de découvrir finalement que ça remet en perspective toute cette vision de l'addiction. Et en fait, l'addiction n'a rien à voir avec les substances. Et je t'enverrai une vidéo, il y a un rabbin américain qui a fait une vidéo incroyable là-dessus. Ouais, vraiment.
Je veux. Mais la sobriété émotionnelle dont tu parles, c'est celle que l'on recherche aux alcooliques anonymes. C'est, en fait, on ne cherche pas l'abstinence, on cherche la sobriété émotionnelle pour ne plus avoir à apaiser cette souffrance-là par des substances. Mais l'apaisement de substances, il vient justement à cause du dérèglement de l'émotivité,
oui.
Et du fait de ne pas savoir gérer du tout ses émotions.
Du trou, j'appelle ça le trou. Le trou, le vide.
Oui,
quoi.
Le vide béant que l'être humain a de toute façon. Et pour ça, c'est pour ça que je te disais, les addicts, tu me dis, tout à l'heure, là où on n'était pas d'accord, c'est que tu me disais, parfois c'est une excuse, le fait d'être alcoolique ou machin, pour ne pas avancer. Et moi, je pense que c'est encore une fois une conséquence du fait de justement être assez intelligent pour comprendre qu'il nous manque un truc, contrairement à d'autres gens qui ne le savent pas.
Il faut être très intelligent pour aller vers la sobriété. Non, mais vraiment.
Mais pour aller vers la sobriété, il faut avoir passé aussi l'addiction.
Oui, mais est-ce que toi, par exemple, tu détectes les gens qui ne sont pas émotionnellement sobres?
Bah, je le sais, moi, je le suis
moi,
pas.
Moi, je les détecte tout de suite.
Bah, moi, je coupe la parole.
Non, mais pas que ça. J'avais appris aussi un autre truc, c'est pour les gens sobres émotionnellement, no is a complete answer. Pour les gens pas
Bien
sobres,
sûr.
Pour les gens pas sobres, no is not a complete answer.
Ouais.
Pour les gens sobres émotionnellement, non, ben non. Il veut pas. Pour les gens pas sobres, c'est le début d'un truc à gérer. C'est très intime parce que je peux pas tout dire de ce qu'on fait à Hoffman parce qu'on n'a pas le droit de le dire parce que ça fonctionne aussi sur la surprise des modes de thérapie. Mais je peux dire des choses qui sont pas des révélations incroyables. C'est que quand je me suis levé pour dire pourquoi j'étais là, parce que c'est... Alors ça peut être un peu caricatural, thérapie, même à l'américaine, avec beaucoup de,
oui, oui,
de câlins et on t'aime et pourquoi je suis là et j'ai pleuré pendant une semaine.
C'est un peu le Frank Lovey, mais américain.
Ouais, mais j'ai dit que j'étais là, entre autres, pour arrêter de courir après le...
Courir après, ça marche, tout court.
Courir avant et courir avant. Non, parce que j'ai fait la traduction dans ma tête. J'ai fait une Vandame pendant que je te parlais. Non, mais j'aime bien. Pardon, je fais une parenthèse anglophone parce que parfois l'anglais il est intéressant. Stop chasing the emotionally unavailable. Arrête de courir après l'émotionnellement indisponible.
Indisponible.
Et en fait, c'est valable en couple, c'est valable dans le travail, c'est valable. Moi, j'avais ça pendant longtemps. À un moment donné, moi, par exemple, dans le cinéma, j'avais des complexes. Pourquoi je ne travaille pas avec les grands metteurs en scène et je ne fais que de la comédie? Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est tellement énorme de faire de la comédie. En fait, tu ne t'aimes pas assez. C'est ça ton problème. Tu ne t'aimes pas. Tu fais des comédies qui font 8 millions d'entrées. Ça s'appelle La vérité si je mens.
Jamais content.
On t'en parle tous les jours. Mais ça, c'est autre chose, l'insatisfaction. Moi, je pense que c'est s'aimer.
Tu veux toujours plus.
Je pense à un autre problème encore, de vouloir toujours plus. Je pense tout simplement qu'à un moment donné... Il y a des trucs qu'on sait faire, des trucs qu'on sait moins bien faire. Il y a des choses que, ça y est, calme-toi, t'es gâté.
Mais même dans les comédies, j'ai lu et entendu que, par exemple, quand tu joues avec Sophie Marceau, toi, tu es vraiment amoureux d'elle déjà. Donc quand tu lui dis je t'aime, ouais. Genre pour toi, c'est vrai.
J'ai un peu joué de ça pour qu'elle le sache,
ouais,
et qu'elle soit touchée.
Ça, et qu'elle soit touchée. Mais en tout cas, tu te sens quand même toujours le fameux syndrome
ailleurs.
Du blédard que tu
ouais,
dis.
Le truc où je suis un peu à côté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'aimes, je sais pas comment te dire. Par exemple. Moi, j'ai vu, on a parlé juste avant d'enregistrer, de gens qu'on aurait voulu, je dis on parce que je pense qu'on est connectés, on aurait voulu les voir ici, on a parlé d'artistes. Mais la manière dont tu m'expliquais qu'il faut qu'ils viennent, elle était trop par rapport à ce que moi je sais de ce que tu fais ici. Parce que moi je sais ce que tu fais ici, ça suffit en fait. Et on est, je ne dis pas ça comme jugement sur toi, c'est que moi aussi je fais pareil. Et en fait, on ne laisse pas les gens juste nous voir. Ceux qui vont nous voir pour ce qu'on est avec nos qualités, nos talents, on va faire des vraies connexions. Ceux qui ne vont pas nous voir et qui ne vont pas s'en rendre compte, ce n'est pas grave. Ça met des années avant de le comprendre. En ce moment, je suis en train d'organiser un festival d'humour à Nice, dans une ville que tu connais bien. Tu es né à Nice ?
Voilà.
Voilà.
22 ans à Nice.
22 ans à Nice. Et donc, j'organise un gros festival d'humour. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que je sollicite des humoristes. Il y a des amis, il y a des gens qui ne sont pas amis, il y a des gens que j'aime, il y a des gens que j'aime pas. Tu ne peux pas inviter que des gens que tu aimes. Et alors, je découvre un truc très agréable. Et justement, c'est là où la sobriété elle, rentre en ligne de compte. C'est que si tu es sobre émotionnellement, tu envoies le message comme quoi tu veux quelqu'un. C'est à lui de décider quand, comment, oui ou non. Tu ne peux pas, à chaque dossier, chaque personne, te dire « Quoi, elle, cette humoriste, que j'ai tout fait avec elle, elle ne veut pas venir ?»
Wow. Alors, vraiment, moi, je ne fais pas du tout ça et je déteste emmerder les gens. Mais c'est vrai que je t'ai relancé quelques fois pour voir, à chaque fois, pour que tu saches que je voulais toujours t'inviter. Mais je ne me formalise pas, je ne prends rien personnellement.
Ouais, il ne faut pas.
Mais alors, jamais. Mais jamais.
C'est bien.
Vu que tu as fait ce stage et que tu as été travailler les blessures de l'enfance, moi, je voudrais savoir quelles sont tes premières addictions, tes premiers souvenirs où tu sens que tu as ce tempérament-là à justement jamais être satisfait de ce que tu as et de vouloir plus. Et puis, peut-être aussi les premières substances que tu consommes.
C'est fou. J'ai un souvenir. Quand j'y repense, j'en ai jamais parlé de ma vie, ce truc-là. Au Maroc, je suis gamin. Je ne sais plus quel âge j'ai et je découvre une colle à papier peint. Mais une colle à papier peint très, très puissante. Je pense qu'elle s'appelle Vulfix. Tu sais, cette espèce de couvercle où il faut mettre un couteau pour essayer une...
Ah oui, oui.
C'est très pâteux.
De bâtiment.
Et cette colle à papier peint, l'odeur, elle est juste bonne au début, elle est agréable. Il y a un garage dans la maison et j'aime bien sentir ça. Et j'ai un souvenir un jour où, littéralement, je la sniffais en fait, la colle. Enfin, je la mettais pas dans le nez, mais je la sentais très fort, ça... Peut-être que je la mettais sur un linge que je couvrais, je sais pas comment je faisais. Je me souviens que d'une chose, c'est que je me réveille d'un knock-out. Je me réveille de ce shoot de colle de papier peint et je me souviens pas de ce qu'il y a eu avant. Mais c'était très très bon et j'ai un peu de honte, un peu.
Tu sais que c'est quelque chose qu'il faut pas faire?
Ouais.
Du coup, ça t'a donné envie de le refaire ou plus du tout?
Non, ça m'a fait peur. Parce que je me suis réveillé, en plus, il y avait des planches avec des clous, il y avait des...
C'était oui, t'aurais pu tomber.
Ouais, je me suis dit, ah, c'est pas génial. C'était pas top.
Et en substance qui existe, c'est quoi la première?
Je pense que c'est la cigarette.
Ouais.
Et très jeune, l'alcool. Très, très jeune.
C'est vrai?
Beaucoup trop jeune. L'alcool, 12-13 ans. C'est-à-dire, alors pas consommation en conscience, quoi. Mais tu vois, ça commence, quoi. Et puis après, 14, 15, alors là, waouh, 16, le whisky. Le whisky coca. Whisky coca au Maroc. Et alors, je faisais un truc. Il y avait une boîte à Casablanca qui s'appelait La Cage. C'était vraiment la boîte... Putain, c'est marrant parce que c'était à La Cage. Mais j'ai pu m'en sortir de La Cage.
Ouais.
Et j'avais pas d'argent. J'étais très jeune, mais j'étais très très malin pour rentrer dans les boîtes. C'est pour ça que parfois, quand je parle avec des gens qui me disent « c'est normal, t'es connu, t'as ça », et je dis souvent, en fait, non. Oui, ça aide, mais c'est ton tempérament. Moi, je me rappelle quand je faisais mes papiers, donc ma carte de séjour, je devais la renouveler à la préfecture. Il y avait une dame qui était devenue mon amie, qui m'aidait. Elle ne me faisait pas des faveurs de dingue, mais pourquoi? Parce que
Tu sais parler. Tu sais flatter.
Ouais. Et je la séduisais, je la faisais rire. Mais c'était sain comme rapport. C'était une dame, voilà. Mais elle aimait me voir. Et je revenais du Maroc, je lui apportais des gâteaux. Alors oui, certes, c'était pour obtenir ses faveurs. C'est-à-dire ne pas faire la queue pendant 7 heures. Parce que c'était des conditions qui ont beaucoup changé. Tu ne pouvais pas aller sur le online pour faire ta carte de séjour, quoi. Tu attendais pendant des 8 heures à la préfecture de cité avec tous les immigrés qui veulent avoir leur carte de séjour.
La boîte de nuit, La Cage,
ouais.
T'arrivais à rentrer faire servir à boire.
Pas me faire servir à boire. C'était un peu plus triste.
Finissez
que
les verres de tout le monde.
Ouais.
Ah
ouais.
Alors ça, c'est un vrai tempérament d'alcoolique. Hein.
Ouais, j'avais commencé sérieusement, quoi. C'est-à-dire que... Mais c'est que j'avais pas d'argent. Donc,
mais tu voulais boire.
Il y avait Patrick. Alors là, tu vois, je lui rends hommage. Lui, il est parti malheureusement à cause de la drogue. Il a fait carrément une overdose et il est parti. Et c'était le grand frère de mon pote. Et lui, il connaissait bien, il avait les copains, il avait l'alcool. Et puis Patrick, paix à son âme, il me donnait des verres de whisky. Alors au début, il me servait de leur bouteille. Mais après, il n'y en avait plus, donc il fallait que j'aille un peu demander des verres. Et je me bourrais la gueule comme ça, mais j'étais... Mais c'était super joyeux pour moi parce que je basculais dans un monde où j'étais bien, quoi. J'étais juste bien. La musique, elle me parvenait de manière comme je suis très, très, très mélomane et musicien et musicophile.
On a pu le voir.
J'aime ça. Tu as déjà fait de la musique en ayant bu?
Je n'ai fait que ça.
Ah, tu as fait que ça.
J'ai commencé comme ça.
Je reprends ma question. Tu as déjà fait de la musique sans bois?
C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je mets du temps à revenir aussi à la musique.
Je fais une parenthèse sur un truc parce qu'on en parlait hier avec des potes. C'est que là, je parle pour les gens que je connais, donc le stand-up, chez les artistes, dans la nouvelle génération. C'est très bizarre. Hein. Les jeunes ne boivent pas. Et c'est très étonnant.
Dans cette nouvelle génération?
Dans la nouvelle génération des stand-uppers, dans l'humour aujourd'hui, la vie après le show, elle est très différente de ce que j'ai connu, moi, avec les comiques de ma génération. Les chanteurs, je ne sais pas, je ne connais pas bien. Mais pour parler de choses concrètes, dans le stand-up, alors il y a des exceptions peut-être, il n'y a pas de coke, il n'y a pas d'alcool. Je vois des jeunes fumer, ça fume un peu en dehors des comedy clubs, ça fume du shit, enfin de la weed, ou du shit, je ne sais pas. Mais il n'y a pas ce truc de l'alcool que j'avais, moi, avec les copains. On boit des coups. Et bizarrement, ce truc de boire des coups, il y a comme un truc pour eux qui est à l'ancienne.
Ouais, ils n'aiment pas.
Ils n'aiment pas et il y a un côté presque ringard. Il y a un côté qui va vers une forme de... Même, parce que l'humour est différent. Et comme le stand-up, c'est la quête de vérité, de sens.
Oui, ça va plus vers Jean-Marie Bigard que vers Romane Fraissinet, quoi.
Sais
tu
pas,
vois.
Bah, lui, non, mais c'est ça. Il a connu l'addiction aussi.
Oui, il y a un côté vulgaire.
Ça ouvre. J'ai l'impression que quand tu fumes de la weed, c'est une espèce d'ouverture, de clairvoyance, d'hypersensibilité, d'hyper d'ouverture des multisens.
D'hyper appétit aussi.
D'hyper appétit aussi. Ouais, les munchies. Ouais, tu veux manger, ouais. Ouais, c'est très bizarre, quoi, tu vois.
Toi, à ton époque, c'était alcool, est-ce qu'il y avait coke chez les humoristes aussi?
Je pense, je sais, que dans le show business, c'était la génération d'avant, vraiment, on entendait parler de cocaïne. Moi, j'ai pas entendu parler de cocaïne avec mes contemporains, quoi. J'ai jamais parlé de cocaïne avec Jamel Debbouze, Eric Kerramzy, Franck Dubosc, Florence Foresti, Danny Boone, jamais. Avec certains, pas tous, on a picolé, fumé, pas trop, c'était pas mon truc, parce que moi, ça me rend paranoïaque, bien que j'aime l'effet. Mais ça m'est pas arrivé il y a très longtemps. Mais je pense, et c'est pas une parole comme tous les addicts, je pense pouvoir contrôler ça.
Ouais.
C'est-à-dire, si je prends une taf d'une vape électronique à la weed, ou alors une taf de... Même, je la prends, ça me déprime un peu. Pour parler du stand-up, voilà, ouais, c'est important de dire ça, parce que ça décrit aussi une génération. Et je crois que l'addiction... Alors, c'est intéressant, je parle du stand-up, l'art du stand-up, qui se pratique dans les clubs. C'est pas une addiction, c'est une obsession. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun comique digne de ce nom qui fait du stand-up, hein, du stand-up, ni du one-man show, ni du seul en scène, ni qui fait du stand-up.
Tu peux nous dire la définition du stand-up ?
C'est-à-dire qu'aller dans un club, en marchant presque de la rue à la scène, en étant tel que tu es, tel que pour proposer des idées, t'adresser au public et construire des choses efficacement comiques qui parlent de la vie, de la société, en étant le plus sincère possible, ça c'est du stand-up, c'est-à-dire vraiment...
Il y a de l'impro beaucoup ?
Non.
Pas forcément ? Non.
Il peut y en avoir.
Mais... Donc c'est pas de l'impro ?
Okay. Non, c'est pas de l'impro. Il y a quelque chose de psycho-rigide, d'obsessionnel, où tous les stand-uppers, on parlait de Roman Frayssinet, mais je peux parler de mon maître, moi qui est Jerry Seinfeld, c'est des gens qui refont la blague tous les jours. Moi, mon show, je le joue depuis un an. Hier soir, j'ai compris que le début de mon show n'était pas bon. Et ça ne va pas. Il ne va pas, le début de mon show. Il est trop facile.
Est-ce que je peux le confirmer ?
Qu'il
non
est
mais
pas
je
bon.
Te je, non c'est que ça c'est alors au début je me suis dit c'est cool parce que en fait du coup on s'installe et c'est crescendo mais moi je pense qu'il faut arriver fort donc je me dis vu que t'as les capacités c'est comme quand on fait une super chanson et on la fait commencer comme une chanson qui n'est pas un tube si c'est un tube prends le refrain mets-le dès le début on
ouais,
a compris
et boum et ouais. Tu tapes quoi
et en fait t'as des trucs derrière tellement puissants que je me dis pourquoi tu commences un peu hésitant Hein ? Il y avait une hésitation même.
Pas une hésitation, c'est une forme de crescendo comme tu dis, mais on n'a pas besoin de ce crescendo.
Peut-être pas, je sais pas, moi c'est pas mon domaine. Mais par contre, j'ai toujours énormément ri à tes spectacles, je les ai tous vus, donc je te connais très bien.
Mais ça n'a pas besoin d'être ton domaine.
Celui d'avant, juste avant, je me rappelle avec ma sœur, parce qu'on la voit tout le temps.
Tout avec ma,
ouais,
avec
toujours avec Anna, on a hurlé de rire dès la première seconde.
Je comprends, celui-ci il va crescendo en effet. C'est marrant parce que tu viens de dire un truc, je sais pas, c'est pas mon domaine. Moi, j'adore dire aux gens qui font ça, c'est de l'orgueil pour les provoquer. Très souvent, les gens qui disent, je sais pas, c'est pas mon domaine, à mon petit niveau. Et en fait, j'ai constaté, c'est lié à l'addiction aussi, que beaucoup de gens qui s'excusent, c'est des gens très prétentieux.
Je m'excuse pas du tout. Je te dis juste, je veux pas donner mon avis alors que j'ai jamais bossé là-dedans.
Tu connais les gens qui disent à mon petit niveau.
Non, je dis jamais
t'as envie
ça,
de dire, mais attends, mon petit niveau déjà.
Ceux qui disent à mon petit niveau, celui qui disent à date, ceux qui disent les enfants, c'est des éponges, tous ces gens-là, il faut qu'ils disparaissent de la surface
moi, je crois
de la
qu'on
Terre.
On va bien s'entendre, Rose.
Alors écoute,
je pense même qu'on risque de devenir amis.
Ah ben écoute, c'est un petit peu quelque part un rêve profond que je tu vois que je comment on appelle ça quand tu
je
dis
chéris.
Un rêve. Non, ouais, il y a un autre mot que je chéris voilà. Depuis des dizaines d'années. On sent le tempérament addict. Finalement, quand tu commences à boire, tu boiras toute ta vie, c'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de boire, tu ne te dis pas que tu as un problème avec l'alcool.
Non,
jamais.
Pas du tout. Jamais. À aucun moment, je me dis que j'ai un problème. À aucun moment, je me dis que c'est chaud, c'est juste de la gestion. Et alors, il n'y a rien qui m'insupporte plus que des amis aujourd'hui, ou des gens de la famille surtout, des oncles, des cousins, des taxis, qui disent « Qu'est-ce que j'ai entendu là ? Qu'est-ce que tu dis là ?» J'ai entendu, tu dis, jamais on t'a vu. Nous. Et en fait, t'as envie de dire, mais t'es même pas à l'écoute de ce que je dis, en fait.
Laissons décider les gens s'ils ont envie d'arrêter de boire, déjà.
Bah, non, mais c'est surtout, t'entends même pas ce que je dis. Quand je dis, j'ai arrêté de boire de l'alcool, et qu'on partage ça, et que je me confie, et que derrière, tu viens me dire, mais moi, je t'ai jamais vu quand j'ai lu ça. En fait, ça parle d'eux, en fait. Ils veulent parler d'eux, ils veulent parler de leur rapport à l'alcool, et... Et en fait, c'est une crainte, en fait. Ils veulent dédramatiser pour toi. Mais j'ai pas besoin d'être dédramatisé, puisque j'ai été dramatisé, moi. C'était un drame. C'est un drame.
C'est quoi, concrètement ?
L'alcool ?
La consommation, ouais.
C'est un drame.
Non, mais comment tu la consommes ? C'est-à-dire que c'est festif, uniquement ? Est-ce que c'est solitaire ? Est-ce que c'est secret ?
Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de types de consommation d'alcool pour moi différents. Il y a eu la fête. La fête, c'est-à-dire le champagne, mais c'est pas la coupe de champagne bien frappée dans un cocktail. C'est les 11 coupes de champagne à rentrer à la maison, ou je sais pas où d'ailleurs. Voilà, où tu sais plus où t'habites et t'es mal. Et tu vois, donc c'est ça, c'est la fête. C'est la fête. Alors, dans ma jeunesse, jamais consommé, à part la colle.
Ouais.
J'étais alcoolique. La colique.
C'est pas mal, la colique.
À part la colle, une fois ou deux fois dans ma vie, à part les petites clopes, il n'y a jamais eu de... J'ai jamais été picolé en cachette ou essayé de me prendre un buzz d'alcool. C'était que en sortant. C'est la fête. D'ailleurs, même le vin, c'est bizarre, parce que le vin du kiddush, du vendredi soir, donc le kiddush, la prière sur le vin, qui vient du mot
Kadosh
et Saint. Kodesh, la sanctification, puisque la sanctification, ça passe par le vin. Donc, et ben, dans cette prière-là, on se passe le vin de main en main, et moi, je détestais cette odeur, parce que le vin, peut-être parce qu'il était cachère, mais
sûrement.
Je pense pas, il y a des grands vins cachères aujourd'hui, mais je sentais...
Nos parents, ils les connaissaient pas, ces grands vins.
Non, pas du tout. Je sentais, je dis, mais comment les adultes peuvent boire un truc pareil? Et j'en ai bu des centaines de litres après.
On avait ça avec le café jeune aussi. Comment vous pouvez boire ça?
Exactement. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait pour l'alcool fort, comme le whisky, le gin, la vodka. Ça s'est fait avec la fête. Pour le champagne, ça s'est fait genre aussi la fête. Le vin, c'était oh, « je passe un bon moment, là, c'est pas de l'alcool, c'est un bon moment entre amis. » Et après, j'ai eu une phase où j'essayais de doser, où je me disais « voilà, tu vas finir ton show et tu vas prendre un bon verre de vin. » Voilà, t'es prêt à ça? J'ai même une période où c'était ma carotte avec moi. C'est-à-dire, je jouais à New York et je faisais plusieurs sets, comme on dit dans les comedy clubs, plusieurs passages. Je commençais à 19h et je terminais à 1h du mat. Et j'avais le droit à 1h du mat, je m'étais accordé le droit de me poser et de boire un bon verre de vin. J'avais même acheté du vin français que j'amenais au comedy club, que je donnais au barman. Je dis, à 1h du mat, tu me serviras mon verre. Mais il n'était pas bon. Pas le vin, mais l'acte, le moment... Il n'était pas cool, il n'était pas serein. J'attendais tellement, je jouais, je faisais mes trucs, j'attendais tellement ce verre de vin. J'avais un ami, Ryan Hamilton.
Franck Dubos, il nous a dit la même chose sur la clope quand il essayait d'en fumer qu'une. Il dit, c'était jamais la bonne.
Ah, c'est pas la bonne, c'est intéressant. Pareil, le verre de vin, c'est...
Et t'avais un ami, pardon.
Non, j'avais un ami, Ryan Hamilton, qui est un humoriste américain que j'adore, qui est mormon, c'est sa religion. Et eux n'ont pas le droit de boire ni de thé, ni de café, ni d'alcool.
Tout ce qui excite, en fait.
Tout ce qui altère, ouais. Ton...
Excite, surtout.
Ouais, ouais. Lui, en fait, à chaque fois que je le regardais pas boire, je me disais, mais comment tu fais? Your life sucks, tu dois te faire chier. Et en fait, pas du tout, quoi. Tu te fais pas chier, tu t'ennuies pas, quoi. C'est le
tu
fameux truc un peu, c'est un gimmick, hein.
Ouais, tu vois, finalement.
Spécial dédicace à Léa Salamé. J'ai un copain qui m'a dit un truc fou un jour. Il m'a dit, il faisait alcool et coke. Il m'a dit cette dinguerie que tu dois connaître. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que quand tu bois beaucoup, bah, en fait, quand tu prends de la coke, tu peux boire tellement que tu sens plus rien. Et je lui dis, mais sentir plus rien. Tu n'as pas pensé juste à rien prendre pour rien sentir? Et en fait, c'est fou,
c'est un engrenage incroyable parce que tu annules les effets de l'alcool par la cocaïne, mais la cocaïne, du coup, c'est trop haut, donc du coup, tu rebois.
Mais tout vient avec.
Tout vient avec.
Moi, je pense qu'on ne parle pas de sexe là, mais c'est lié. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, dans ce cercle-là, alors il y a émotionnellement sobre, pas sobre, il y a l'alcool, il y a les attitudes, il y a le truc, mais il y a la sexualité aussi. Comment elle opère à ce moment-là? T'as pas le même regard, le même rapport, la même relation, la même projection dans ton désir quand t'as bu 9 coupes de champagne et c'est pas les mêmes personnes même qui répondent à ce que toi tu t'envoies. Moi j'envoyais des signaux, alors parfois c'était les bonnes personnes mais malheureusement j'étais pas capable de
discerner.
Bah non, mais de faire une forme de suivi affectif.
Ah oui, c'est un one-shot, quoi.
Tu vois, ouais, mais one-shot, pourquoi pas? Dans la vie, il y a des one-shots,
oui,
même
mais...
si t'es pas bourré. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste que moi, j'aime bien les choses vraies. J'ai aucun problème avec... Par exemple, c'est pas la superficialité qui me gêne, parce que moi, dans ma vie, je fais des choses superficielles. Mais c'est juste quand c'est pas vrai. Quand c'est pas vrai, quand c'est pas authentique, quand c'est pas ressenti, quand c'est pas... Ouais, j'aime bien quand c'est vrai. J'aime bien quand c'est vrai. Quand on se dit le truc, on est un one-shot, ben on sait qu'on est un one-shot.
J'ai une question importante justement pour ça, c'est-à-dire que l'alcool aide. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je me rappelle que toutes mes relations ont commencé avec de l'alcool, notamment la dernière aussi. Et finalement, j'ai arrêté de consommer pendant cette relation-là. Et donc, je ne connais pas le fait d'être célibataire, en fait, de devoir... Enfin, si, on s'est quand même séparés beaucoup. Mais c'est horrible pour moi d'être célibataire et d'aller dans un bar et de ne pas boire. Comment ouais, c'est
moi,
j'aimerais vraiment pas être célibataire aujourd'hui.
Ah, tu n'es pas célibataire.
Non.
Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu rigoles?
Non, de toute façon, c'est ma sœur que tu veux.
Oui, c'est vrai. Pourquoi tu fais le lien entre être célibataire?
Parce que je ne sais plus faire.
Wow.
Je n'ai pas appris, en fait, à entamer une relation avec quelqu'un sobrement. Je ne l'ai pas jamais fait, en fait. Mais c'est comme les concerts, ça revient. Si je suis célibataire demain, ben, ça reviendra.
Mais tu as fait des concerts?
Oui, bien sûr.
Mais des concerts... Non.
Sans... Oui.
Oui.
Oui, oui, bien sûr.
Et alors?
Oui, ça commence à être vraiment,
c'est
vraiment
génial.
Mieux. Ah bah oui, déjà je m'en rappelle, c'est cool.
Quand non, même mais cool. C'est génial.
Non, mais dans ma relation avec mon mec, c'est beaucoup mieux aussi. Mais de commencer quelque chose, je ne sais
mais
pas faire.
Mais t'es d'accord avec moi que, parce qu'il faut qu'on parle quand même de ça, parce que le couple, ça rentre en jeu avec ces histoires.
Bien sûr.
Que si l'autre boit, c'est compliqué.
C'est très compliqué.
Ok.
L'autre boit, mais sans moi.
Ouais, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas en couple et je réfléchis parfois et je me dis...
Non, mais en fait, je ne suis pas vraiment en couple.
C'est drôle. Ce qui est marrant, Rose, c'est que ça peut paraître très, très dur de dire « Ah, moi, je ne peux pas mettre avec quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit. » Mais soyons clairs, soyons honnêtes. Quand on a... Ah ben non, d'ailleurs, j'ai eu une histoire avec une femme il y a quelques mois, que j'aime beaucoup, beaucoup. On est restés amis, d'ailleurs. Waouh, c'est une super belle histoire. On a un peu flashé l'un sur l'autre, on nous a présenté, c'était cool, on a eu une histoire et... Et moi, j'avais arrêté de boire et elle avait un vrai problème avec l'alcool. Elle était alcoolique, quoi. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup perturbé parce que je me suis dit, mais tu peux pas avoir arrêté et rentrer dans une relation. Alors, c'est dur parce que tu te dis, mais je vais pas juger la personne, l'annuler parce qu'elle boit. Moi-même, j'étais là-dedans.
Attends, ce qui te perturbe, c'est pas plutôt de se dire pourquoi je me tourne vers quelqu'un qui a un problème avec l'alcool ?
Non, parce que très vite, je me suis dit, c'est pas pour moi, quoi, il faut pas que...
Mais t'y vas, enfin, à la base, elle te plaît.
Ouais, mais
c'est bizarre
pas,
que ce soit une addict. Bah si, tu le sais.
Tu crois?
Bien sûr qu'on le sait. Un addict, tu le sais, sur la tête, sur tout. Les addicts sont plus intéressants.
Ouais,
très vite.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ouais, peut-être.
En fait, on va vers ça.
En tout cas, toujours est-il que je lui explique que je peux pas, mais j'ai jamais été aussi honnête de ma vie, ça a été très dur. D'ailleurs, j'ai pas été très courageux, j'ai écrit un long texte. Mais quand même, je lui ai tout dit. Et je lui ai dit pourquoi. Et je lui ai dit de quoi j'essayais de me défaire. Et je lui ai dit ce que je pensais pour elle. Et je lui ai dit le lendemain. C'est-à-dire qu'elle attendait ça depuis... Je sais pas, elle doit avoir 40... je sais pas quel âge. 45 ans. 40 ans, je sais pas. Et ben, ça a été un déclic. Elle est rentrée le lendemain dans un programme. Et aujourd'hui, elle est sobre depuis quelques mois. Et
Ce programme, tu en parles sur scène. À un moment donné, tu dis j'étais aux alcooliques anonymes, mais... Mais ça le faisait pas, l'anonymat.
Non, c'est une
il y a beaucoup de gens pas connus aux États-Unis. On est quand même beaucoup sur Brad Pitt, Bradley Cooper. Enfin, les gens connus, Elton John, sont aux alcooliques anonymes. Attention.
Oui, oui. C'est plus pour la blague que je l'ai fait quand je dis alcoolique, oui, mais anonyme, ça va être compliqué.
Exactement.
Non, c'est juste.
Mais
les
ça
réunions.
Fonctionne tellement bien, ce programme.
Ouais, totalement. Par contre, je le suis un peu, même si c'est pas dans les meetings. J'aimerais aller aux meetings. Cela dit, il y a des meetings. Que tu dois connaître à Paris, qui sont des meetings... Je ne parle pas des meetings un peu privés, je parle des meetings à l'église américaine, je parle de tous ces meetings...
C'est un peu le Raya, c'est le Raya des alcooliques anonymes.
Bah, j'étais sur Raya.
Bah, tout le monde, hein, on a tous essayé.
Toi aussi?
Oui.
Alors, Raya,
j'ai tenté, hein, mais...
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de rencontre...
Pour gens qui se croient mieux que les autres.
Ouais, mais ce n'est pas vrai, parce que très vite, tu t'aperçois que c'est plus une application
pire.
Pour gens qui ont du fric et... Ben bref, écoute, c'est... Mais bon.
J'y étais deux jours, je t'avouerai.
Mais j'aimais bien au début, j'avoue. Je ne peux pas le critiquer, j'ai fait des rencontres et puis...
Bah, finalement, elle attendait ça depuis des années et alors elle est sobre.
Ouais. Non, je lis tous les jours les réflexions quotidiennes.
Moi aussi.
Toi aussi ?
Ah,
pas ce matin, mais j'adore.
Il y a les réflexions quotidiennes des AA et il y a aussi les pensées du jour des narcotiques anonymes. Moi, je préfère.
Ouais, je les connais.
Qu'est-ce que j'aime, mais c'est toujours en rapport avec Dieu, donc on va en parler
toujours,
un petit peu. Hein.
Toujours.
Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai reçu, c'était encore une fois la volonté de Dieu. En fait, on le dit souvent, il ne faut pas penser Dieu comme on l'imagine, il faut penser à une puissance supérieure, quelque chose qui nous veut du bien.
Oui, il le précise d'ailleurs dans
le programme.
Ça peut
être le groupe.
Tel que tu le conçois, souvent.
Exactement. Et en fait, d'abandonner sa propre volonté aux mains de quelque chose de plus grand. parents qui nous voudraient du bien. Ça fait énormément de bien. J'aime beaucoup dans ton spectacle quand tu dis les athées, gros respect, les mecs se lèvent tous les matins en croyant en rien. Putain, il faut une putain de foi.
Ouais.
C'est énorme cette phrase.
T'as bien retenu ça.
Mais j'ai une mémoire incroyable.
Mort d'éléphant, dis donc.
Oui, pas que. La question que je voulais te poser, c'est celle dont tu parles beaucoup, c'est celle d'avoir l'impression d'avoir donné à l'alcool le rôle que tu ne faisais plus ou que la joie ne faisait plus en toi. Ouais. Donc c'est l'alcool qui opérait à ta place. Donc il y a un moment quand même où tu te rends compte que tu fais semblant d'être heureux beaucoup et qu'au fond, tu ne l'es pas. Est-ce qu'il y a un burn-out, il y a quelque chose de violent ?
Ouais, pas heureux, mais genre joyeux, genre en mode en fête. Moi, je fais semblant et c'est un masque. Je me dis, mais ça m'a pris beaucoup de temps, quoi. Ce masque, c'est l'anesthésiant, en fait. C'est une douleur. C'est même pas, il n'y a rien et je me mets de la joie. Il y a une douleur, il y a une souffrance, il y a une quête, il y a une forme de tiraillement. Et j'essaie de le couvrir et de l'apaiser, de l'anesthésier avec l'alcool. Mais moi, je ne sais pas que je fais ça quand je le fais. Là, je te le dis de manière très recul, après avoir fait Hoffman, le programme Hoffman.
Mais ce 21 août 2021, est-ce que c'est le lendemain d'une cuite ou est-ce que c'est juste une prise de conscience ?
C'est incroyable, c'est improbable. Le 21 août 2021, ça opère dans la plus grande des sobriétés, bizarrement. Ça opère dans une sobriété totale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça nous travaille, le fait d'arrêter, le fait de devenir sobre, ça nous travaille. Et le jour où on passe à l'action, c'est comme une rencontre, c'est comme une révélation. C'est pas forcément je prends cette bouteille que je casse sur un pont et je la jette. Non, moi le jour où j'arrête, le 21 août 2021, je suis dans un restaurant thaïlandais à Lourdes avec mon amie Nora de Toulouse. Super sympa, on parle, elle habite à Toulouse, elle vient dîner avec moi à Lourdes.
Wow.
Moi, je suis à Lourdes parce que je produis la comédie musicale, je vais souvent à Lourdes et j'adore aller à Lourdes, c'est super spirituel, je fais des rencontres incroyables. Et il y a un resto que j'adore là-bas, qui est un resto thaïlandais. Et je commande un verre de vin et je sais que c'est le dernier de ma vie,
Enfin
de ma vie. Juste pour aujourd'hui, comme on dit, tu connais le programme ?
Bien sûr.
Juste pour aujourd'hui.
Tu connais le programme, j'y suis.
Donc je commande le verre de vin et je le bois. Je ne le savoure pas non plus, je suis en train de le boire. Et d'ailleurs, je ne lui en parle pas. Je suis devant elle, on discute. Elle est très marrante, elle a un accent de Toulouse. Voilà, on passe une super soirée, on voit le spectacle et tout. Et c'est le 21 août 2021.
Wow.
Et je dis voilà, je me dis, j'en prends pas un autre.
Moi c'est celui-là.
Voilà. C'était comme ça. Pourquoi ? Je sais pas. Et alors, bizarrement, c'est après... Ah oui, quand même, il faut que je mentionne, parce que j'ai eu un genre de... On appelle ça les sponsors. J'aime pas ce mot. Parce que les sponsors, on dirait qu'ils te financent. Non, un sponsor, c'est un genre de coach, c'est un genre de personne référente qui connaît le programme et qui t'aide.
C'est un parrain.
Ah oui, sponsor, c'est le terme anglais.
Ah, donc tu as été à ce programme, vraiment ?
Bah, si tu veux, comme je connais intimement quelqu'un qui est à fond dedans, il le fait depuis Tel Aviv, je l'appelle, on a grandi ensemble, il est marocain et il vit à Tel Aviv. Et il fait ça, il s'occupe, lui, et puis de drogue. Mais il comprend très bien. Et un jour, je fais un spectacle à Dubaï. Parce que oui, j'avais arrêté aussi, je veux dire une chose, c'est que j'avais arrêté de boire avant le 21 août 2021. J'avais arrêté parfois, j'avais essayé d'arrêter.
Voilà, c'est important de savoir que déjà, on ne réussit pas du premier coup.
Non.
À force d'arrêter, on réussit d'arrêter.
Ouais. Et un jour, j'ai arrêté pendant 3 mois.
Waouh.
Et je fais mon show à Dubaï, j'étais 3 mois abstinent et je finis le show et on est avec plusieurs comiques et on ramène tous les potes. Dans ma chambre d'hôtel. On est à Dubaï, il y a une grande chambre avec la vue sur Dubaï. Et là, dans ma tête, je dis à Henri, mon parrain, waouh, c'est cool, on va. Tu sais, Henri, en fait, c'est ce que je me dis. J'ai fait un bon show ce soir. Et il me dit, ouais, tu as fait un bon show, oui. Ouais, tu vois, j'ai. Et il me dit rien. Ouais, tu vois, je peux, par exemple là, je peux boire un bon verre de champagne, par exemple. Il me dit, ouais, tu peux. Et ou de vin rouge, ouais, ou de vin blanc, je lui dis. Je sais pas si vin rouge ou vin blanc. Et là, je me mets à me prendre la tête, à me parler, à machin, tout ça. Et là, il me dit une chose folle, Henri. Après 10 minutes, il me dit, t'es pas en train de me parler, t'es en train de te parler. Donc, est-ce que tu as une question pour moi? Alors, je lui dis...
Ouais, on dit en fait, il faut jamais écouter ce que ta tête te raconte. En général, elle te raconte de la merde. Mmh. Mais parce que c'est vrai
parce
qu'elle
que
commence
pour toi, non,
à
mais...
ouvrir la porte.
Ouais.
Tu sais?
Et en fait, j'étais en train de préparer cette transgression, le fait d'avoir rompu avec l'abstinence. Mmh. Et alors, c'est très intéressant parce que c'était horrible, j'ai pas apprécié. Parce que j'ai pris le coupe de champagne, j'ai pas aimé. Je dis en fait, c'est du vin rouge qu'il faut que je prenne.
Oui, je connais par
cœur. J'ai bu du vin rouge, c'était pas du vin rouge, j'ai bu du vin blanc. Après, je suis revenu au champagne. J'ai eu une soirée de merde.
Et depuis.
Et j'ai terminé tout seul dans ma chambre d'hôtel.
Et depuis ce jour-là, du 21 août, il n'y a jamais eu, en fait, de pas de côté ou de. Jamais.
Parce le que seul c'est... moment où, les deux seuls moments où. Je sais pas si ça t'est arrivé, c'est terrible d'ailleurs quand ça arrive. Sinon, c'est quand tu prends de l'alcool par erreur. Ça m'est arrivé deux fois.
Non, je n'irai pas jusqu'à ce mensonge-là. J'ai toujours repris de l'alcool.
Ah non, non.
En conscience.
Non, moi, depuis le 21. Non, non, par erreur, je te donne un exemple. Ouais. Ça m'est arrivé il y a quatre jours. Je suis un genre de cocktail. J'ai dans un appartement. Voilà, on doit faire une rencontre. Il y a plusieurs verres. Et moi, je demande toujours qu'on me serve un soda dans un verre à vin. Parce que j'aime bien, je tiens mon verre, je bois du Schweppes, je suis dans un verre à vin avec des glaçons. Personne ne sait ce que c'est, je ne vais pas me justifier, je m'en fous. Et sauf que j'ai à côté de moi un gars qui a posé son verre et moi j'ai posé mon verre. Et là je discute et je porte le verre à ma bouche et là je sens un truc de gin. Et je me sens, mais j'ai envie de me doucher de l'âme. J'ai envie de Non, c'était horrible. C'était horrible, quoi.
Toi, tu viens d'aborder un truc, on n'a pas le temps d'en parler, dommage, mais ce truc-là de se justifier, de devoir dire aux gens, voilà, pourquoi je bois pas, et pourquoi tu bois pas, et tu bois pas, c'est un peu relou.
Oui, mais je les comprends et j'ai plus de problème avec ça. Moi, je dis pas que je bois pas.
Bah, tout le monde le sait maintenant.
Ouais, c'est vrai, mais je dois dire que, en fait, si tu veux gagner du temps, je le dis à tous les gens qui sont abstinents, si vous voulez gagner du temps, si vous voulez que ce soit plus simple, si vous voulez pas vous prendre la tête avec des gens qui... D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que les gens font pas trop attention si vous buvez ou vous buvez pas de votre verre.
En fait, tout le monde s'en fout.
Laissez-vous servir un verre de vin. Laissez-les. Au pire des cas, au bout de 40 minutes, il y en a un qui va dire « Bah dis donc, tu bois rien » et tu lèves ton verre, tu le reposes, personne ne va rien voir. Mais de dire à quelqu'un « Je ne bois pas », surtout aux amis « Ah bon, pourquoi ? Mais jamais ? Mais rien ? Mais plus rien ? Mais tu veux dire quoi ? Tu bois plus ? Tu vas plus jamais boire ? Je sais pas, on verra. »
Je t'avouerai que mon état était tel que tout le monde autour de moi était ravi que j'arrête.
Ah ok, d'accord, oui. Mais
moi, tout le monde savait pourquoi.
Ouais.
La différence, c'est qu'on nous dit tout le temps, comme moi, c'était la cocaïne, les gens ne comprennent pas qu'il y a une addiction généralisée, et on me dit toujours, mais genre, tu peux pas... Un verre, ça c'est la phrase qui m'énerve le plus. Mais quoi, un verre? Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je me suis énervée mille fois contre ce genre de choses, alors qu'aujourd'hui, je pense que je peux boire un verre, tu vois?
Waouh, c'est une grande réussite.
Ouais.
Non, mais boire un verre, c'est comme demander à
un mec
colérique de baisser le ton.
C'est comme
se bagarrer au ralenti. Enfin,
je pense qu'il y a une sobriété émotionnelle, en effet, à trouver. Et il y a surtout cette espèce de flemme d'aller dans la destruction, la flemme d'avance, tu vois, de me dire, ouais, putain, je sais où ça va, parce que moi, ça va pas, genre bourré, je rentre chez moi, il est midi, je suis encore là, tu vois. C'est terrible.
Ouais, non, alors ça, j'ai pas vécu.
Voilà, c'est très dur de s'imaginer retourner.
Mais la chute, elle est pas plus forte en apparence qu'intérieure. C'est-à-dire que mon vertige descendant, et ma spirale descendante, elle était horrible. Elle se voyait pas, personne ne m'a jamais vu. J'ai rarement été bourré en journée.
Gueule de bois quand même, les gens le sentaient ?
Je sais pas. Moi, je fais partie de ceux qu'on n'aurait jamais soupçonné boire.
Et puis surtout, toi, tu n'annules rien.
Non.
Voilà, moi, j'annulais tout.
Ah non.
Donc moi, déjà, les gens, quand t'es fiable, les gens se doutent pas une seconde que tu peux avoir un problème.
C'est intéressant ce que tu dis. Non, non, justement, ça me rendait fou parce que parfois, je dormais deux heures et j'avais bu beaucoup et c'était très, très, très violent. J'ai des souvenirs quand je vivais au Québec de cuite à la bière parce que j'avais pas les moyens de m'acheter autre chose. Donc, je buvais, je sais pas, 11, 12 bières. Et après 12 bières, ben, je tombais. Et ben, le matin, alors que j'étais pas un bon étudiant, je mettais mon réveil, j'allais au collège. Bon, c'est débile, quoi. C'est parce que la culpabilité, quoi. C'est pas parce que j'étais un élève incroyable, c'est la culpabilité.
On a malheureusement plus le temps. Il y a vraiment ce truc-là, à un moment donné, d'arrêter de courir. Moi, j'ai trouvé le calme et en fait, je ne m'ennuie plus. J'avais toujours cette impression qu'il fallait. Ma mère disait que j'étais une femme d'extérieur. Je posais un pied à la maison et il fallait que je sois dehors tout de suite. Et en fait, aujourd'hui, c'est les trous dans les agendas,
mais là, tu
tout ça.
Depuis combien de temps?
En fait, moi, c'est plus compliqué que ça. On en parlera plus tard.
D'accord.
si tu veux. Moi, je compte plus les jours et je suis une chercheuse encore, moi.
D'accord.
Mais par contre, je suis sobre.
Tu chemines, comme disent les
cathos. Oui, mais je suis sobre. Ma vie est sobre et d'accord. Je me couche à 9h tous les soirs.
Ah, okay.
Et ce que j'aime, c'est ne rien faire. Et je voulais savoir juste si tu avais été attiré. Donc, est-ce que la spiritualité, ça a été vraiment un moteur dans cette histoire?
Ouais, tellement.
Et est-ce que tu as été attiré par d'autres formes de spiritualité orientale, plus bouddhiste?
Non, alors, non. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est marrant, j'ai écouté un philosophe récemment qui disait, en analysant le mot spirituel et spiritualité...
Comme... Il y avait le vin dans le spiritueux, spiritum.
Ah, il y a ça.
Contre spiritum, ouais.
Moi, c'était plus le fait de... Il insistait plus sur le fait de décharger ça de tout le poids de la religion, de la foi.
Bien sûr.
Ou alors méditatif, ou alors... Mais plus de l'esprit. Et comme moi, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne, l'esprit. Je le dis même en rigolant dans le spectacle sur « Je voudrais être amoureux d'une femme qui a de l'esprit ». L'esprit. Et l'esprit, pour moi, c'est l'esprit au sens, c'est une grâce, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on ne maîtrise pas. L'inspiration, l'esprit.
Mais d'ailleurs, la spiritualité vient de la spiro, il y a même des spirothérapistes, c'est la thérapie par le souffle. En fait, c'est l'inspiration.
Complètement.
Donc, ça marche.
Et je crois... Alors après, dans la religion et dans les textes, même des différentes religions du livre, tu peux avoir... la notion de l'Esprit Saint, tu vois, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit chez les cathos, l'Esprit Saint, le Roi HaKodesh chez les juifs, l'Esprit Saint chez les chrétiens, même dans l'islam, il y a une notion en tout cas de souffle de Dieu. Mais tout
bien
ça,
sûr.
On peut l'appeler ou pas souffle de Dieu, ou Esprit Saint, ou Roi, ou comment tu veux l'appeler, il existe quoi, tu vois.
Tu sais qu'enthousiasme, ça veut dire avoir Dieu en soi étymologiquement.
Non.
Ouais, enthéos, c'est joie, c'est Dieu.
Wow.
Ouais,
eh ben,
donc c'est très très puissant de toute façon ce désir qu'on veut. En fait, d'ailleurs, je vais finir là-dessus.
Vas-y.
En fait, je sais que tu adores les citations, notamment celles que tu as toujours sur toi, dont j'ai entendu parler de Charles Foucault, officier devenu religieux, prêtre et ermite. Il a écrit « L'amour consiste non à sentir qu'on aime, mais à vouloir aimer. Quand on veut aimer, on aime. Quand on veut aimer par-dessus tout, on aime par-dessus tout. » Donc pour Foucault, vouloir aimer, c'est déjà aimer. Okay ? Donc pour saint Augustin, tu désires prier, tu pries déjà. D'accord ? Donc déjà, désirer prier, c'est prier. Donc moi, j'ai envie de dire, pour ces fervents croyants, le désir vient de Dieu qui met sa grâce en l'âme. Ok ? Et donc, le mot de la fin, pour moi, ça veut dire que celui qui a le désir d'arrêter de consommer, il est déjà en train d'arrêter.
Ah, totalement.
C'est important de dire ça.
C'est génial de dire ça.
Et je vais terminer en te disant mes citations préférées. Nous rencontrons souvent notre destinée sur la route que nous avons choisie pour l'éviter, Jean de La Fontaine. Si nous ne voulons pas mourir de soif, devenons notre propre source, Christiane Singer. Ma préférée, l'esclavage, c'est de dépendre de quelque chose de plus petit que soi. La liberté, c'est de dépendre de quelque chose de plus grand que soi.
Wow,
Aristote.
Wow, wow.
Et enfin, tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Et ça, je crois qu'elle est de moi.
Je ne sais pas,
j'ai pas mis le nom. Je t'offre mon introduction, mes citations et mon livre Contradiction, Gad. J'aurais pu rester avec toi des heures.
Wow, c'est
et
génial,
laisse-moi te remercier d'être venu.
C'est moi qui te remercie.
C'était incroyable. Et j'en ai, en fait, là-dedans, tu vas voir, il n'y a que ça, des citations.
Je suis très content, j'ai l'impression que c'est la suite de la discussion qu'on a eue hors micro et qu'on va continuer à voir. Donc c'est un dialogue continu.
J'adorerais. Et bien, la personne que j'invite juste après toi, Fabrice Midal, justement, il a un podcast qui s'appelle Dialogue.
Eh bien, écoute, après Contradiction, Dialogue. Merci, Rose.
C'est moi qui te remercie.
Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA. Anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies.
C'était l'émission Contre Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h.
Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contre Addiction.
Retrouvez le podcast sur rose-lecite.fr et idfm98.fr.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
It's whatever, it's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drink, dance, smoke free, party all night. Come on, gumbe, gumbe, go, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Hold on, hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way.
Vos artistes préférés sont sur IDFM Radio.
On ne choisit ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on file ghetto. Net les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en tri de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tous deux la même balle et tous deux déçus.
Je prends mon dernier
la sécheresse
rêve.
Sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arracher. Il y a l'État, les RMI, l'État qu'a taffé. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air particulier.
Face à la
qui résiste.
Face contre terre, ton nom sur la liste.
Matière grise dans le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé, son baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopassi 2004, action.
Face à la mer.
Sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château, quand on tire des taux, laisse les taux, pour du coup, comme Cosette et Hugo, est en prix, dans le conflit, est plus tôt, très faux, QCCO, LGO, cette LGO, MJCFO, j'aime pas les mots, face à la mer, on veut tous grandir, Calopassi, trop jeune pour mourir.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Tú estás junto a mí, porque tú vives en mí. Quiero decirle a la vida gracias por hacerme feliz, porque tú estás junto a mí, porque me cuidas así. Por la paz de tu sonrisa, gracias por hacerme feliz. Cuando amanece y me encuentro con tu rostro, siento alegría invadir mi corazón. Cuando amanece y me encuentro con tu rostro, es alegría que invade mi corazón, porque tú estás junto a mí, porque tú vives en mí. Quiero decirle a la vida gracias por hacerme feliz, porque tú estás junto a mí, porque me cuidas así. Por la paz de tu sonrisa, gracias por hacerme feliz.